franceinter.fr.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Andrzej Wajda, L'Homme de Cannes, une émission proposée par Christophe Barrer, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. Né le 6 mars 1926 à Paris, Andrzej Wajda est le plus grand cinéaste polonais et aussi l'un des réalisateurs les plus politiques de l'histoire du 7e art. Il restera pour l'éternité celui qui fixa sur la pellicule, mélangeant fiction et images documentaires, la grande contestation ouvrière en Pologne en 1970 et en 1980. Deux épopées qui, on le comprendra plus tard, constitueront les premières brèches dans le glacis communiste. En mai 1977, Wajda sort L'Homme de marbre, qui met à terre le mythe de l'ouvrier communiste méritant du héros prolétarien polonais, sur le modèle stakhanoviste soviétique qui en prend pour son grade. Avec ce film, Wajda impose son style et surtout sa ligne de conduite en tant que cinéaste, concilier esthétique et engagement politique. L'Homme de marbre est projeté à Cannes, il obtient le prix de la critique internationale. Dans ce film, un maçon polonais, Birkut, qui moule 30 000 briques par jour, est confronté à la terrible réalité de la période stalinienne jusqu'à la prison. C'est l'unique œuvre de ce côté du mur de Berlin à revendiquer le droit de l'ouvrier, affirme Wajda. En mai 77, le film est montré à Cannes. Devant le monde entier, un cinéaste du bloc de l'Est montre la réalité de son pays et du système qui le gouverne et l'écrase. Quelques mois plus tard, un pape polonais est élu. 7 ans plus tard, Mikhail Gorbatchev s'installe au pouvoir à Moscou et desserre l'étau. Entre-temps, Wajda signe le deuxième volet de sa trilogie, L'Homme de fer, qui raconte l'épopée d'un étudiant qui s'engage sur les chantiers navals de Gdansk en août 80. L'affaire est sensible, très sensible, car cette fois, le pouvoir polonais tremble sur ses bases, Moscou aussi. Wajda s'inscrit dans l'histoire en marche. Mais comment faire passer le rideau de fer à l'homme du même nom ? Gilles Jacob, déjà délégué général du festival, trouve la solution, car il faut le montrer à l'ouest, ce film. Ce sera sa force. C'est cet épisode, précisément, que raconte la fiction, aujourd'hui. Le subterfuge de Jacob, un faux titre pour passeport. Le film passera la frontière sous le titre anodin, estampillé « Film de l'Ouest, j'irai cracher sur vos tombes ». C'est ainsi que le père de l'homme de marbre et de l'homme de fer devient l'homme de Cannes. Pour évoquer avec nous la vie et l'œuvre d'Andrzej Wajda, nous recevrons après la fiction un chroniqueur de cinéma maison, Laurent Delmas, coproducteur avec Christine Masson de l'émission On aura tout vu tous les samedis sur France Inter à 10h.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Andrzej Wajda, L'Homme de Cannes, de Jean-Pierre Tiercelin, une réalisation de Michel Sidorov. 29 mai 1978, 17h30, Cannes en plein festival.
Taxi est là. Allez vite, dépêchez-vous les garçons. Sinon on va rater notre coup. Allez.
Mais papa, elles sont vachement lourdes, ces boîtes. Et puis elles sont rondes, ça me glisse des mains.
Vous voulez jouer les gangsters, oui ou non? Allez, pressons. Oh, mais fais attention. Tu te rends compte, si elles étaient ouvertes, c'était fichu.
Il aura fallu les rembobiner.
Est-ce que tu crois qu'on peut faire ça comme ça sur le trottoir? Rembobiner des kilomètres de pellicule. Et bonjour la discrétion.
Et on sera arrivé en retard pour la projection et tout aurait foiré.
Ouais, ben si ça continue comme ça, on va finir par être en retard pour de bon. Allez, hop, tout le monde dans le taxi. On garde les bobines avec nous sur les genoux. Mmh. Mmh. Vous les retenez bien, surtout.
D'accord.
Au palais du festival, côté administration. Et puis si on peut mettre la gomme, tout le monde sera ravi.
Oui.
Pas vrai, les mecs?
Super. Comme dans les films policiers.
Allez, plus vite, chauffeur. Plus vite, on est poursuivi par des espions parce qu'on s'est emparé des bobines de film. Mais c'est top secret, faut pas qu'ils nous rattrapent.
J'irai cracher sur vos tombes, c'est le titre du film.
Oui.
Ça existe déjà, ce titre. C'est un vieux film, alors?
Mais non, c'est pas un vieux film. C'est un remake.
C'est pas drôle.
Bah pourquoi pas drôle?
Parce que moi je veux pas jouer dans un remake.
Moi non plus je veux pas jouer dans un remake.
Vous faites de drôles d'acolytes. Regardez plutôt la route. Profitez-en, il n'y a qu'au cinéma qu'on peut rouler si vite sur la croisette.
S'il vous plaît, vous pouvez prendre le prochain virage très 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 vite. Il est super génial.
Mais je pense pas que ce soit un vrai chauffeur. Papa, papa, j'ai reconnu.
Qui?
Le chauffeur de taxi. On l'a vu dans un vieux film à la télé. C'est Lemmy Cochon.
C'est vous Lemmy Cochon, monsieur?
C'est sûr que c'est lui. Mais il peut pas répondre parce que c'est un agent du FBI.
Alors ça vous gêne plus de jouer dans un remake?
Mais c'est pas un remake, puisqu'on fait une vraie course-poursuite et qu'on a volé des vraies bobines de film.
Tu sais, papa?
Oui.
Je crois que chef de gang, ça te va mieux que délégué général du Festival de Cannes. Tu ferais mieux de changer de boulot tout de suite.
Vous avez raison, je vais y songer. En attendant, nous voilà arrivés à bon port. Bravo, hein, mon cher Lemmy Cochon, vous avez été formidable. Mais c'est vrai que vous ressemblez à Eddie Constantine. Bon, maintenant, on porte tout ça en vitesse, en cabine de projection.
Ouais.
...17h40, palais du festival.
Ah, vous voilà. Bravo. Vous êtes presque dans les temps. Ça s'est bien passé?
Très bien. Mes 2 secondes ont été à la hauteur.
J'en étais sûr.
Opération réussie. Voilà les bobines secrètes. On les a trouvées sur le palier de votre appartement.
Chut. Mais qu'est-ce qui te dit que c'était chez moi?
Votre nom sous la sonnette. Entre nous, c'est pas très malin pour un agent secret.
Je vais vous faire un aveu.
Oui.
Je ne suis pas un agent secret. Je suis juste le distributeur de ce film mystérieux. Mais en tout cas, mission accomplie. C'est grâce à vous deux qu'on va pouvoir le projeter tout à l'heure. Merci les gars.
Ça veut dire que maintenant, on est de vrais agents secrets?
Des vrais de vrais. Bravo.
Ouais.
Chut. Allez, filez devant, on vous suit.
Ouais.
Vous connaissez le chemin.
Ouais.
Vous nous attendez devant la cabine de projection. Mais vous ne dérangez pas le projectionniste, ok?
Ok.
Ils sont parfaits, tes garçons.
Ouais. Ça les a bien amusés, mais ils ont pris leur rôle très au sérieux. Je pouvais confier cette mission à personne. Le voilà donc, ce film tant attendu. Quand je pense que j'ai fait le voyage à Varsovie pour le visionner et qu'on m'en a interdit la projection, je devrais pourtant avoir l'habitude. À chaque festival, on a un problème d'autorisation avec le bloc soviétique. Mais là, comment as-tu fait pour récupérer le film?
Laisse, c'est ma petite cuisine. Par contre, pour le titre, j'étais coincé. C'est pour ça que je t'ai téléphoné. L'homme de marbre était interdit à l'exportation par le ministre polonais. Mais j'irai cracher sur vos tombes et passer comme une lettre à la poste. Ça sentait bon, le film occidental, décadent. Excellente idée.
Ah, mais du coup, ça nous empêchait d'inviter Vaïda à Cannes. Ils auraient flairé l'entourloupe. Allez, viens, allons porter notre précieux butin. Le projectionniste doit nous attendre.
Mais on n'a pas dit notre dernier mot, hein? Enfin, si je continue à distribuer ces films en France. Et là, je te promets que Vaïda, il viendra à Cannes, officiellement.
Oui, il serait temps. Il a reçu le prix spécial du jury en 57. La critique française l'a sacré chef de file de l'École nationale de cinéma de Lodz. Et après, rien. Une 15aine de films, des chefs-d'œuvre et pas une invitation.
Je peux te dire que celui-là s'en est un. 14 ans qu'il était dans ses cartons. 14 ans qu'il le proposait chaque année. Et 14 ans qu'il était refusé. Tu vas voir, le public ne sera pas déçu. Ni les journalistes. Même s'ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Génial, l'idée du film surprise.
Comme ça, tout le monde est intrigué. Tout le monde veut voir la surprise. Je suis sûr que la salle est déjà pleine. Ça doit se battre à l'entrée. Bonjour. Voilà le film.
Parfait, je m'en occupe. Ce titre, c'est ce qu'on appelle une couverture, non?
On ne saurait mieux dire. Le vrai titre, c'est L'homme de marbre d'Andrzej Wajda.
Eh bien, pour une surprise.
Eh oui, c'est une surprise.
Je compte sur votre discrétion.
Bon, soyez tranquille. On démarre à 18h30 et je sors pas de la cabine. Ah, au fait, n'oubliez pas vos garçons.
Eh, mais où sont-ils?
Cachés derrière la porte. Rapport à leur mission d'agent secret.
21h, palais du festival, devant la salle de projection de L'Homme de Marbre.
Oh, mais quel film magnifique! Quelle émotion!
Super!
Oh là là!
Merci. Ça, c'est un vrai film surprise. J'aime beaucoup Vaida. J'ai vu presque tous ses films, mais là, c'est un véritable tournant dans son travail. Ces deux jeunes acteurs, ils sont formidables. Je ne les avais jamais vus.
C'est leur première apparition à l'écran.
Christina Yanda est sidérante. Son personnage dégage une force incroyable. Cette obstination pour essayer de retrouver cet homme. Lui aussi, il est très bien. C'est terrible, la destinée de ces ouvriers modèles, ces ouvriers stakhanovistes. Quel regard! Il condense à lui tout seul l'innocence instrumentalisée et broyée par la propagande. Son nom, c'est Yeji...
Yeji Radzivilovitch.
Oui, il faut le dire doucement. Le film a été bien reçu en Pologne.
La critique officielle a éreinté le film. Quant au ministre de la Culture polonais, il a déclaré que le film était nul et n'avait aucun succès. Il a juste oublié de dire que les salles étaient combles et que les places se vendaient au marché noir. Mais la calomnie ne lui a pas porté chance, il est mort juste après.
Vous allez distribuer le film en France ?
Jusque-là, c'était impensable.
Mais dès qu'ils auront lu la presse française, ils devront s'y résigner. Après un triomphe à Cannes, le film va faire le tour du monde. Bon, je vous laisse bavarder, je vais appeler L'Homme du jour.
21h30, bureau de Gilles Jacob, au palais du festival.
Voilà, mon cher Andrzej, vous savez tout, presque, de cette projection magnifique. Notre seul regret aura été votre absence, mais nous nous rattraperons bientôt, c'est promis.
Je viendrai vous voir quand le film sortira en France. Je suis très curieux de voir la réaction de la jeunesse. Et j'ai fait ce film pour la jeune génération, vous savez, celle qui s'interroge sur le poids des non-dits de ces 30 dernières années. Ces jeunes veulent connaître l'histoire de leur père. C'est normal. Ils veulent prendre leur destin en main. Il est légitime de s'interroger. En France, vous commencez tout juste à vous intéresser au régime de Vichy. L'histoire officielle, on la retrouve partout.
Votre regard sur l'histoire et la politique, c'est aussi le regard du cinéaste.
Le cinéma doit dire la vérité. Mais il faut trouver le langage pour la dire, cette vérité. C'est parfois long et difficile, mais on y arrive. Je viens de terminer Le Chef d'orchestre avec John Gielgud. Mais quel acteur merveilleux! Mais il est évident que parler de conflit entre les musiciens et leurs chefs, c'est aussi parler de la Pologne. Et je suis sûr que le public le comprendra tout de suite.
Vous restez toujours un grand optimiste.
Plus que jamais. Sinon, comment aurais-je fait pour tourner autant de films en dépit de notre régime politique?
Vous ne voulez toujours pas venir tourner chez nous, comme vos amis Polanski ou Zulawski? Vous savez que vous êtes attendu.
C'est très gentil, mais non, pas pour le moment. Je ne divorce pas avec mon pays. Je ne suis pas un dissident. Vous venez de projeter L'Homme de Marbre, alors vous savez que ça ne m'empêche pas de le critiquer. Mais cette critique, je tiens à la faire de l'intérieur. Et vous n'ignorez pas que chez nous, la situation est très inquiétante. La situation économique, tout particulièrement. S'il se passe des choses, je tiens à être là.
Comme citoyen et comme cinéaste?
Absolument. Vous savez, tourner L'Homme de Marbre, ça donne des responsabilités. Ici, le public attend quelque chose.
Une suite?
Peut-être. Je ne sais pas encore. En tout cas, le film se termine sur une ouverture, une interrogation. Et puis, je n'ai pas envie d'abandonner mes deux héros, ni mes deux magnifiques interprètes.
Je vous comprends. C'est la seule raison?
Non. En fait, à la fin du film, la censure a exigé de couper une scène. Une scène essentielle pour moi. Et j'ai dû m'incliner pour que le film puisse sortir. Mais je vous jure que cette scène sera le début de mon prochain film.
À suivre, donc.
Oui, cher ami, à suivre.
31 août 1980, France Inter, le journal de 13 heures.
Bonjour. Soulagement en Pologne où la signature, hier 30 août, entre les représentants du gouvernement et les grévistes des chantiers d'aval, met fin à un mois de grève. Grève sous haute tension qui s'est peu à peu durcie et étendue à tout le pays. Le 14 août, un premier accord de compromis a été signé avant que le leader charismatique Lech Wałęsa annonce finalement la poursuite de la grève. « Nous devons continuer la grève par solidarité jusqu'à la victoire de tous », a-t-il déclaré. Les grévistes avaient reçu le soutien de tout le pays et des quatre coins de la planète, à commencer par le pape Jean-Paul II. Le beau nom de solidarité, Solidarność, s'est mis alors à fleurir sur toutes les lèvres. Depuis, le monde entier avait les yeux braqués sur la Pologne. Qu'allait faire le gouvernement polonais? Et surtout, qu'allait faire la grande puissance amie voisine de la Pologne? 12 euphémismes pour nommer l'Union soviétique. Mais hier, de guerre lasse, le ministre a répondu « J'accepte, je signe à toutes les revendications ». Les accords prévoient la création d'un syndicat libre et indépendant, Solidarność. Nous vivons là un moment exceptionnel où pour la première fois un pays du bloc communiste ose prendre son destin en main. On ne peut que s'en réjouir sincèrement, tout en espérant que cela puisse durer.
1er mars 1981, 12h30, devant les grilles des chantiers navals de Gdansk, en Pologne.
Monsieur Wagda?
Oui. Ah, bonjour, mademoiselle. Notre ami Gilles Jacob m'avait fait part de votre venue. Vous avez fait bon voyage?
Oui, merci. Je sais que le temps vous est compté, mais quand ce sera possible, je serai heureuse que nous puissions parler un peu.
Mais bien sûr. D'ailleurs, après ce plan, nous allons faire la pause. Mais méfiez-vous, je suis très bavard. Tout le monde vous le dira. Surtout quand je parle de mon travail. Là, nous tournons la scène où Maciek grimpe sur les grilles pour parler à la foule.
Vous me dites quand vous êtes prêts. Edward, Edward, tu es sûr que la caméra n'est pas trop près de la grille? On a beau être en contre-plongée, on doit quand même garder une certaine distance. Pour pouvoir sentir la foule, non?
Comme ça, ça va?
Oui. Oui, oui, c'est mieux comme ça.
C'est bon.
Pour nous, votre venue est capitale. Nous tournons un film spécifiquement polonais, mais c'est grâce à l'intérêt que nous porte la critique française que ce film pourra exister. Alors, bienvenue à Gdansk.
Merci. C'est vraiment troublant de me retrouver ici. Après avoir vu et revu toutes ces images à la télévision lors des événements, je suis saisie par l'immensité des lieux, les grues, les bâtiments, les navires en construction, la foule, cette atmosphère de fête, les fleurs accrochées aux grilles et cette grande croix. J'ai l'impression de vivre au présent les images de l'an dernier.
C'est exactement ça. Je veux que le film raconte au présent ce qui s'est passé ici il y a moins d'un an.
Tout cela est allé très vite.
Très. Au plus fort de la grève, j'étais venu soutenir le mouvement, leur dire que j'étais là avec eux, avec mon ami Wałęsa. Et voilà qu'un ouvrier m'interpelle. Monsieur Wajda, vous devez faire un film sur nous. Vous avez fait l'homme de marbre, faites l'homme de fer. En temps normal, je me refuse à faire un film de commande, mais la commande d'un ouvrier, je ne pouvais pas refuser.
Et vous vous êtes décidé comme ça, tout de suite?
Oui, oui. J'ai dit au ministre du cinéma, il faut absolument envoyer une équipe là-bas. Et on a filmé ce qui se passait, comme ça, à chaud. Et comme je songeais à une suite de l'homme de marbre, j'ai repris le personnage de Maciek, le fils de l'ouvrier Birkut, que la jeune cinéaste recherche désespérément.
Maciek, qui travaille justement au chantier de Gdansk et qui annonce à Agnieszka que son père est mort. C'est la fin du film et on les voit partir ensemble.
Vous, je vais vous prendre comme script.
Méfiez-vous, je risque d'accepter. Et j'en profite pour poser une question de script. Vous aviez parlé d'une scène coupée par la censure à la fin de L'Homme de Marbre. On la retrouvera dans L'Homme de Fer?
Bah là, vous êtes engagé. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans cette scène, Agnieszka cherchait au cimetière la tombe de Birkut. Mais la tombe avait disparu.
Disparu?
Ah, c'était le seul moyen pour le pouvoir de nier les morts des grèves de 70. Pas de tombe, pas de mort. Alors Agnieszka a accroché son bouquet aux grilles du cimetière. Mais cette fois, vous verrez la scène.
Et vous reliez les événements de 68 et les grèves de 70 et 76 à aujourd'hui.
Exactement. Et vous êtes promu scénariste. Mais rassurez-vous, ça sera aussi un film plein d'espoir. Il le faut. C'est pour ça qu'il se terminera sur la signature des accords. Car aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui nous attend.
Il y a urgence ?
Oui, tout peut arriver. On doit tourner très vite. Mais ça ne me gêne pas. La tension nerveuse est un bon moteur. On a démarré le 15 janvier et on approche de la fin du tournage. Il y aura très peu de temps pour le montage. Et après...
Une sélection pour Cannes ?
Gilles Jacob m'a parlé dans ce sens. Pour nous, ce serait une formidable opportunité. Surtout dans le contexte actuel, mais... En fait, je ne sais vraiment pas. Il faut déjà terminer ce film en priant pour qu'il y ait assez de PQ.
Vous êtes prêts ?
On est bon ici ? On est bien là ?
C'est bon là-haut sur les grues ?
Tout bon.
Bon, je vous rappelle que les tracts sont censés être lâchés par des hélicoptères. Alors jetez large. Yeji, ça va là-haut, sur ta grille ? Pas d'imprudence sur toi.
C'est bon. Ils m'ont bien sécurisé. On peut y aller.
Pour économiser la pellicule, on va essayer de ne faire qu'une seule prise, ok? Alors chacun à vos postes, je vous demande d'être très très concentré. Chers amis des chantiers, on peut essayer de se rapprocher des grilles pour donner l'impression de densité. Bien. Merci. Yeji, n'hésite pas à t'affirmer, lâche-toi. Tu maîtrises parfaitement la situation. Il faut qu'on le sente. Une sorte de jubilation. Appelle-toi Vanessa. Tu fais comme lui. Tu as les rênes en main et la foule boit tes paroles, ok?
Ok.
Bon. Je ne dis pas silence sur les chantiers, c'est une utopie. Ça tourne.
Ça tourne.
Envoyez les tracts. Très bien. Action.
Mes amis, ne ramassez pas ça. Ne les lisez pas. Ils essaient de nous provoquer. Nous n'avons pas besoin de ces mensonges qu'ils nous lancent du ciel. Ils doivent venir ici eux-mêmes et écouter nos revendications. Il le faut. Quant à ces ordures de tracts, notre service d'ordre les ramassera.
Stop! Bravo, Yeji. C'est bon, la garde. Merci à tous. Et pause déjeuner.
Alors...
Je suis fascinée par la disponibilité et la concentration de chacun. Vous avez dit, chers amis des chantiers, ce ne sont pas des figurants ?
Non, ce sont les ouvriers des chantiers. Ils ont tous voulu être là, mais pas pour le plaisir de s'agiter devant une caméra. Pour revivre leur histoire, la fixer sur la pellicule et donner au monde une image d'espoir. Et peut-être aussi pour conjurer le sort.
Vous êtes inquiet ?
Vous savez, un pouvoir n'accepte jamais de perdre la face. Je crains que d'un jour à l'autre, il ne se passe quelque chose. Ce tournage est une course contre la montre. D'ailleurs, à propos de montre, il est déjà 13h. Il est temps de nous diriger vers la cantine. Tu nous rejoins, Yeji ?
24 mai 1981, 21h30, Cannes. Cabine de projection du palais du festival.
Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez la projection tout de suite !
Comment ça, arrêtez ? On n'a jamais vu ça ?
C'est moi qui vous le demande, je le prends sur moi.
Mais pour quelle raison ?
Mais pour la raison que les bobines ne sont pas dans le bon ordre. Il faut arrêter tout de suite, sinon on court à la catastrophe.
Mais j'ai suivi l'ordre, moi.
Mais j'en doute pas, je n'en doute pas, mon ami. Vous n'y êtes pour rien, tout cela s'est passé si rapidement.
Bon,
vais vous aider. Montre-moi les autres bobines.
On aura tout eu avec ce film. Quand je pense qu'il y a 2 semaines, t'étais encore à Varsovie à essayer de faire sortir le film sous le nom des films Molière.
La seule et unique copie. Pour l'instant, il n'en existe pas d'autre. Ils avaient donné un premier accord parce qu'ils pensaient que le montage ne serait pas terminé à temps. Quand ils ont compris, ils ne voulaient plus me recevoir.
Ils ne savaient pas qu'on avait travaillé en douce jour et nuit dans les labos de Solidarność. En particulier pour les sous-titres français. S'ils l'avaient su, le film était interdit de sortie.
C'est vraiment le film de la solidarité.
Jusqu'à ce soir dans cette cabine. Vous avez trouvé ?
C'est bon. On a retrouvé le bon ordre. Il ne reste plus qu'à mettre la bobine en place. Le public n'aura pas attendu trop longtemps.
Merci, Andrzej. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça n'aura pas d'incidence.
Vous plaisantez ! Chez les Polonais, le contournement d'obstacles est une seconde nature. Alors ce n'est pas un malheureux changement de bobine qui va nous empêcher d'avoir une belle projection. Cher ami, à vous l'honneur. Vous pouvez envoyer.
...27 mai 1981, 19h15... cabine de projection du Palais du Festival de Cannes.
Tout à fait solennel, il y en avait bien d'autres avant, mais le dernier moment solennel de ce festival, c'est-à-dire la proclamation du...
Alors les garçons, prix, ça va comme vous voulez?
Ouais, on est aux premières loges. Mais il faut se tendre le cou pour regarder par le trou de la cabine. Et on a vu Isabelle Adjani. Ah, elle est super.
On approche de la fin. 1981, c'est bientôt la Palme d'Or.
Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter en chair et
regarde,
en
regarde, il y a James Bond qui arrive. Bond.
C'est vraiment lui? C'est le vrai James Bond?
Oui, le vrai. Enfin, le vrai acteur qui joue James Bond. Il s'appelle Sean Connery.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer un pistolet laser sur l'agent soviétique qui veut voler la Palme d'Or. Et puis, il va s'envoler en hélicoptère avec Isabelle Adjani. Et si ça se trouve, notre père est dans le coup.
Vous avez beaucoup d'imagination, Lina. Non, James Bond, comme vous dites, il va remettre la Palme d'Or à...
À qui ?
Chut, écoutez.
La Palme d'Or... à l'homme de fer d'Andrzej Wajda.
Enfin, on y est arrivé. Magnifique. Vous avez entendu les garçons? C'est Wajda. Andrzej Wajda.
Wajda? Mais on le connaît.
Mais oui, vous vous rappelez, il y a 3 ans.
On avait rapporté son film en secret, même quand on était poursuivi. Mais on s'en était bien sorti.
Finalement, c'est un peu grâce à vous qu'il a reçu la Palme d'Or ce soir.
Alors maintenant, Wajda, il va partir pour Hollywood?
Non, non, je ne crois pas. Je pense qu'il va retourner dans son pays, en Pologne.
Pourquoi?
Il va tenir sa promesse. Présenter l'homme de fer aux ouvriers des chantiers navals de Gdansk.
Je suis très heureux.
Andrzej Wajda est très heureux, tout simplement.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei.
C'était Andrzej Wajda, L'homme de Cannes, de Jean-Pierre Tiercelin, avec Arnaud Bédoué, Gilles Jacob, Olivier Peignet, Tony Molière, Victor Ponomarev, Andrzej Wajda, Brigitte Lecordier et Christelle Reboul, les fils de Gilles Jacob, Lara Brühl, la journaliste, Anton Jakovliev, Jerzy Radziwilowicz, Samuel Charles, le projectionniste, Éric Aymon, le journaliste de France Inter, et les voix de Cécile Arnaud, Élodie Vincent, Madeleine Meynier, Aurélien Ozinski, Myrène Astré, Stéphane Sestak, Bertrand de Rofignac, Mathis Bonzon, Lionel Mur et Mathieu Rauchvarger. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Antoine Viossa. Bruitage, Elodie Fiat. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Michel Sidoroff.
Contre la censure est celle de faire un film vraiment contraire à la censure, c'est-à-dire un film tout simplement qui fait tomber les ciseaux de la main de censeur lorsqu'il dit c'était tout à fait imprévu, un film comme celui-là, on n'y pensait pas, comment est-ce possible? Je pense, dans le film L'homme de marbre, que ce qui était contre la censure, tout simplement, un ouvrier s'adressait dans ce film à son gouvernement. Le gouvernement communiste, là, se prononçait au nom de l'ouvrier, telle était la règle. Par contre, l'ouvrier, il devait faire son travail, bénéficier de la protection que l'autorité, que le pouvoir communiste lui proposait. C'est le seul, l'unique film de ce côté du mur de Berlin à revendiquer le droit de l'ouvrier.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Andrzej Wajda, L'homme de Cannes, notre invité Laurent Delmas, chroniqueur cinéma sur France Inter. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour.
Bienvenue chez vous au micro de France Inter. Hein, dans lequel
c'est gentil, merci.
Micro dans lequel vous parlez tous les samedis à 10h dans l'émission On aura tout vu, que vous co-présentez, co-produisez avec Christine Masson, que nous saluons au passage.
Absolument.
Bien, d'abord L'homme de fer, on va dire, n'est pas tombé du ciel. Hein, c'est pas le premier film de Wajda. On va dire Wajda, hein, comme les Polonais.
On va dire comme ça, on va essayer de parler polonais.
Bien, comment Andrzej Wajda a-t-il débarqué sur la planète cinéma?
Ah, c'est une histoire de presque de nouvelle vague, je dirais, polonaise, liée à au relatif dégel, disons, d'un régime communiste qui est resté assez de fer, hein, quand même. Mais enfin bon, il y a eu comme ça, vous savez, dans l'Europe des années 50, dans l'Europe communiste des années 50, des tentatives, des essais de déglaciation, on va dire. Mmh. Et Vajda fait partie de cette génération-là qui s'est ouvert, je dirais, au cinéma en profitant d'une vague, on va dire, de libéralisation, hein, avec tous les guillemets qui s'imposent, mais quand même, effectivement, il est devenu très rapidement le chef de file, disons, d'un cinéma plus indépendant, plus libre, plus novateur que les aînés.
Et notamment, c'est l'homme de barre. Ça commence par là.
Oui.
Pour les événements de 1970, on retient voilà. Souvent. On retient souvent ceux de d'août 80, parce qu'ils sont encore frais dans nos mémoires. Ils ont été relayés par les médias. N'oublions pas le mouvement de 1970. Alors, l'homme de marbre arrive sur les écrans en 1977. L'homme de fer en 1981.
Oui.
L'homme du peuple en 2014.
C'est la trilogie.
C'est la trilogie. Il y a dans cette œuvre de Vajda un cinéma qui mélange images documentaires et fiction pour une dénonciation. En tout cas, pour les deux premiers. Et ça, est-ce que c'est une aventure cinématographique hors du commun, cette prise de position et à la fois ce mélange de fiction et de documentaire?
Ah ben, en tous les cas, pour le cinéma polonais de ces années-là, mais on peut dire aussi, d'ailleurs, même pour le cinéma en général, parce que, bon, il y a, à la même époque, ou à peu près, il y a des films comme Z, par exemple, de Costa Gavras, mais qui est purement, justement, fictionnel, où il n'y a pas de dimension documentaire avérée. Effectivement, chez Vajda, il y a, vous voyez, moi, je le dis moins bien que vous, il y a cette volonté de quoi? De faire vrai. De coller à l'immédiateté, de faire en quelque sorte un cinéma de l'histoire immédiate. Voilà. Et donc du coup, le recours soit à l'archive, soit aux figurants, mais qui sont des ouvriers bien réels dans la vraie vie, enfin, etc. Voilà, des choses comme ça qui ancrent ces films effectivement dans une réalité. Alors le contre-pied, le contrepoids, peut-être la petite réserve du coup, c'est par exemple, on a pu dire que de ce point de vue-là, L'homme de fer n'était pas un grand film de cinéma. Ouais. C'est-à-dire que ce qui importe pour Vajda, c'est de montrer des choses, et du coup, eh bien, la cinématographie en elle-même, la mise en scène, le côté léché des images, tout ça, il l'oublie un peu. C'est vrai dans L'homme de fer, c'est moins vrai dans L'homme de marbre.
C'est moins vrai également dans l'expressionnisme bleu le bois de Bouleau, sa mélancolie tchécovienne dans Les Demoiselles de Vilco.
C'est un très, non, c'est pour ça, c'est à la base aussi un très grand styliste.
Un esthète aussi.
Oui, un esthète, quelqu'un qui aime énormément la peinture, par exemple, et il fera son dernier film sera sur un peintre d'ailleurs communiste pourchassé par les staliniens. Donc oui, c'est un grand esthète Vajda. Il y a beaucoup de ses films qui sont des merveilleux films de cinéma. Donc il faut pas du tout le cantonner à une sorte de veine qui serait presque qui en ferait de lui un reporter cinématographique, c'est pas le cas. Mais disons que quand l'histoire vient, quand Valéza se met en branle, quand Jaruzelski à l'envers se met en branle, disons qu'on sent chez lui une fibre sinon militante, du moins journalistique.
Et visionnaire, parce que vous êtes de la même génération que moi, nous sommes des anciens jeunes. Voilà.
C'est vous qui le dites.
Et à l'époque, souvenez-vous, on se disait le glacis soviétique, on ne le verra pas tomber. Ça paraissait. Et lui, il est là en quête d'une liberté impossible qui deviendra possible. Est-ce que c'est un visionnaire?
Oui, alors
de ce point de vue, oui,
oui, c'est bon. Évidemment, dans ces cas-là, les gens vous disent, mais je suis pas Madame Irma, mais c'est ce qu'il aurait répondu certainement. Disons que c'est un homme engagé, c'est un homme qui y croit en tous les cas, et c'est ça qui est important, peut-être dans ces cas-là, c'est peut-être ça qui fait faire des choses au-delà de la simple immédiateté, c'est-à-dire qui le fait réfléchir, qui le fait mettre en avant. Et puis il y a une formidable espérance dans ces années-là, quoi qu'il en soit. Bon, en France, en 81, pour l'homme de fer, on vit une alternance politique, hein. De ce point de vue-là, qui est pas négligeable, qui d'ailleurs donne des choses assez bizarres, hein, c'est-à-dire qu'en fait la gauche française regarde l'homme de fer avec en partie de la circonspection, parce que c'est très ambigu tout ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une culture, le Parti communiste est encore très très important en France, très présent.
Georges Marchais fait 18%, je crois, en 81.
Exactement, donc c'est quelque chose d'assez ambivalent. Alors la gauche, disons que la gauche traditionnelle ou moderniste, on va dire, très radicalement du côté de la Gevalesa et de Vaïda. La gauche plus traditionnelle a un peu de mal néanmoins avec ce mouvement syndical qui met en cause tout le pouvoir central communiste, évidemment.
Alors, Gorbatchev, Reagan, Jean-Paul II, le courage des peuples de l'Est et surtout le délabrement de l'économie soviétique ont fait tomber le mur de Berlin. Est-ce que d'une certaine façon, et alors indirectement, Vaïda participe à ce tournant historique en mettant vraiment en avant ce qui était en Pologne la brèche, la première brèche qui a fait tomber finalement ce glacis, c'est la Pologne. Est-ce qu'il y participe quelque part ?
Alors bon, ça c'est une grande question. Est-ce que les films peuvent changer la vie ? Ça, je pense que...
Est-ce que l'art peut changer la vie ?
Bon, évidemment, quand Picasso fait Guernica, on a évidemment une conscience là qui est là. Est-ce que ça a empêché la moindre exaction de la part du régime nazi ? Ensuite, Guernica, c'est tôt hein, dans l'histoire. La réponse est non. Et en même temps, il est bien évident que la l'art, le cinéma, la littérature, la peinture participent de mouvements dans ces cas-là. C'est-à-dire que on peut, je pense qu'il serait pas raisonnable de dire que c'est Vajda qui fait tomber le mur. Mais disons que culturellement, historiquement, ces artistes participent du mouvement et que par ce qu'ils disent, par ce qu'ils montrent, par ce qu'ils suggèrent, ils participent avec leurs moyens à quelque chose qui conduira à l'émancipation des peuples.
Oui. De ce point de vue, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre un cinéaste comme Vaïda et le réalisateur de Z, Costa Gavras, par exemple.
Il y a, oui, bien sûr, ou avec Loach.
Ken Loach, bien sûr.
Il y a comme ça des grands cinéastes, on va dire, de l'engagement. Il ne s'agit pas d'un engagement forcément militant, carté. Enfin, il ne s'agissait pas des gens qui disent votez pour. Mais c'est effectivement des cinéastes dont la claire conscience politique est là et qui pensent que une partie de leur art, c'est aussi de témoigner sur le temps présent. Voilà. Donc, effectivement, les films de Costa Gavras, tous les sections spéciales, tous ces grands films-là, participent de la même volonté de témoigner pour changer les choses, pour que les spectateurs soient des spectateurs actifs, parce qu'au fond, un film n'existe pas sans ses spectateurs, et donc, au fond, s'adresser à ces spectateurs-là, et peut-être se dire que, s'ils sont citoyens, ou encartés dans un mouvement associatif, syndical, etc., eh bien, le film pourra les faire réfléchir.
Laurent Delmas, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler d'Andrei Vaïda.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think so down, Lord heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people out of love, some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all, I'm only human.
only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Laurent Delmas, on va revenir et continuer à parler de Vaïda avec vous. Revenons sur l'épisode relaté dans la fiction d'aujourd'hui. La façon dont l'homme de fer passe les frontières et arrive à Cannes en 1981. Vous étiez trop jeune.
Je n'étais pas né. Non, j'étais à peine né, voilà. Bien sûr. Oui.
Ben voyons.
C'est une nouvelle fiction.
Mais en tout cas, quel est votre regard sur cet épisode-là?
Ah, c'est rocambolesque. C'est absolument rocambolesque. Mais alors, ce qui est étonnant, en fait, et c'est pour ça que Cannes retombe toujours sur ses pieds, je ne sais pas si vous avez vu la remise de la Palme d'Or, parce que donc cette histoire rocambolesque se termine pour l'homme de fer par une Palme d'Or.
Quand même.
C'est-à-dire que la clandestinité aboutit à la reconnaissance la plus officielle et au triomphe. Eh bien, c'est quand même c'est James Bond qui a remis la Palme d'Or. C'est-à-dire que c'est Sean Connery qui est venu sur la scène remettre la Palme d'Or à Vaïda, et le tout était cornaqué, si je puis dire, par Yves Mourouzi. Il n'y a pas un mot de politique. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire que toute cette histoire se termine, certes par une Palme d'Or, mais par une Palme d'Or qui aurait pu être remise par n'importe qui, n'importe comment, pour n'importe quoi. Et c'est quand même surréaliste, quel que soit le talent de Sean Connery, qui est un acteur que j'aime beaucoup, mais enfin, que personne ne se soit dit, non, quand même, peut-être pas James Bond pour remettre une Palme d'Or à un film aussi politique, aussi engagé, etc. On pourra peut-être essayer de trouver quelqu'un d'autre. Je trouve ça fascinant. C'est-à-dire, c'est ça Cannes aussi, c'est parfois surréaliste Cannes. Et ça a été surréaliste dans la façon dont ce film est arrivé subrepticement dans la compétition et s'est imposé au palmarès final. Et c'est surréaliste aussi par la façon dont cette non-remise en quelque sorte d'une Palme d'Or et surtout cette non-prise en compte de la spécificité du film et de pourquoi il a été primé.
Gilles Jacob a joué un rôle.
Ah, mais Gilles Jacob a été le grand organisateur de ces mystères. Et il avait, ce qui est étonnant, c'est qu'il avait fait pour l'homme de marbre auparavant.
C'est-à-dire oui, absolument.
Il a refait le même coup, hein. C'est un joueur, Jacob. Donc, de ce point de vue-là, il a été formidable. Et c'est très, très bien. Moi, je trouve que Cannes, dans ces cas-là, joue effectivement son rôle. On sait bien, plus tard, avec le cinéma iranien, par exemple, et Marjane Satrapi pour Persepolis, régulièrement, le festival de Cannes est un festival, je dirais,
de conscience et de combat.
Mmh. Et ben là, Jacob était parfaitement dans son rôle. Mais ce qui est étonnant, c'est au fond, on peut dire presque tout ça pour ça. C'est-à-dire que le soufflet politique retombe un peu sur cette scène de Cannes où finalement, ben, il se dit rien de politique.
Peut-être parce qu'ils n'ont pas le regard aussi acéré que le vôtre. Ils n'ont pas vu la métaphore, la symbolique.
C'est quand même Jacques Deray était le président du jury, hein, qui remet. Jacques Deray, c'est un bon réalisateur, certes de polar, mais qui avait aussi une conscience. Moi, ces images m'ont frappé vraiment parce que j'ai trouvé que tout ça, on aurait pu remettre la Palme d'Or à une comédie musicale, ça se serait passé de la même façon.
Alors, il y a eu Danton en 1983, ouais. Donc 2 ans après le triomphe de Cannes. Il voulait le tourner en Pologne au départ. Finalement, ce fut en France avec Gérard Depardieu, un grand film qui se voulait peut-être porteur de l'esprit révolutionnaire qui soufflait en Pologne et qui finalement, je trouve, nous parle à nous Français sur notre révolution et ses dérives dans la terreur, peut-être mieux que nous Français n'en avons jamais parlé au cinéma. Je ne sais pas quel est votre sentiment là, sur ce film-là.
Moi, je suis moins enthousiaste que vous sur ce film parce que je le trouve justement très pollué par ce qui se passe en Pologne. C'est-à-dire que il me semble que ce qu'a voulu faire Vajda, c'est moins un film sur Danton et Robespierre qu'un film sur Waleza et Jaruzelski.
Oui, bah ça la métaphore, on l'a vu, mais elle n'était pas gênante.
Moi, elle me gêne un peu parce que elle le conduit quand même à mon sens, hein, chacun sa lecture, mais à caricaturer Robespierre, Jaruzelski, et à exonérer Danton, là où d'ailleurs Waleza n'a pas besoin d'être exonéré, mais si vous voulez, ce qui est problématique, c'est de blanchir à ce point-là la figure de Danton. Vous savez, nous qui sommes des vertueux citoyens français, qui pour l'achat d'un costume ou le don d'un costume sur mesure sommes capables de nous dresser sur nos deux ergots, et tant mieux. Ce qu'a fait Danton en termes de prévarication, de magouille financière matière de tripatouillage et de tripotage, il ne passerait plus du tout la barre. Et ça, par exemple, c'est une dimension que Vajda met sous le tapis dorée de la Révolution. Or ça, c'est pas très raisonnable. Mais il le fait parce que effectivement, il a envie que le débat soit entre le révolutionnaire fou qui est Robespierre et le pur, du coup,
oui, c'est un peu manichéen,
qui est
oui.
dont on sait extrêmement manichéen. Et la Révolution est glaçante et glacée. Et je trouve que de ce point de vue-là, effectivement, Vajda va un peu trop loin dans la façon de, dans la façon justement de d'assimiler. Alors, je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire les regards étrangers sont bienvenus sur nos révolutions et sur nos oui. notre histoire toujours. Cette fin recul. Et là, pour le coup, je trouve que il est assez contrebalancé, hélas, dans sa prise de distance, justement parce qu'il est lui-même impliqué dans des événements politiques dans son propre pays et qu'il souhaite les mettre en parallèle.
Bien, mais ça veut dire que quand on a vu un film à sa sortie, en 1983, il est toujours bon de le revoir avec un autre regard. C'est à ça que vous nous invitez. Vous m'invitez à le faire.
C'est ce que j'ai fait récemment. Je l'ai revu récemment et je l'ai présenté récemment et c'est pour ça que je vous en parle comme ça avec force. Oui, non, mais c'est quoi qu'il en soit, un film intéressant. Alors, il y a une musique abominable. Oui, affreuse, mais bon, on n'en parlera pas. Voilà.
Alors, quel est selon vous son film le plus fort, finalement?
Ah, alors écoutez,
c'est dur, ce genre de question. Hein.
Oui, c'est très dur, et je vais peut-être faire un pas de côté par rapport à la figure de Vajda qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, et avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup ces films tchékoviens que sont Le Bois de Bouleau ou Les Demoiselles de Villecot. Je trouve que ce sont vraiment là des petites merveilles de cinéma.
Et d'esthétisme.
Et d'esthétisme, mais avec, quand je dis tchékovien, c'est vraiment tchékovien, c'est-à-dire
La mélancolie
extrême, le temps qui passe, le monde qui se meurt, etc. Et ça, pour moi, ça me touche beaucoup. Et puis, un autre film que j'aime énormément de lui, qui est un film plus politique, s'appelle La Terre de la Grande Promesse, et qui est la façon dont la Pologne est devenue une Pologne industrielle du début du siècle précédent, avec trois portraits de trois personnages. Le film a pu être taxé d'antisémitisme, ce qui est, à mon avis, un peu excessif. Simplement, Vajda fait du juif présent dans les trois personnages le plus capitaliste et le plus ambitieux en termes libéral. Donc, bon, c'est peut-être effectivement un peu problématique par rapport à tout ce qui peut on peut générer de parallèles entre, comme ça, l'argent, les puissances d'argent et les juifs. On sait bien ce que ça a donné. Hélas, donc, Vajda, de ce point de vue-là, était un peu ambigu, c'est vrai, mais le film reste un très beau film historique sur la façon dont un pays se construit, sur la façon dont... un pays se renouvelle, et de ce point de vue-là, vraiment, ça a annoncé d'ailleurs en même temps ce qu'il avait pu faire ce qu'il fera plus tard sur l'actualité immédiate, mais ce qu'il a fait sur l'histoire de son pays, ça c'est très 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 intéressant.
Quelle trace laisse-t-il dans l'histoire du cinéma, selon vous?
Oh, écoutez, je crois que c'est un Janus, Vajda. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce cinéaste, on va pas dire esthétisant, parce que ce serait méprisant peut-être, mais ce très beau cinéaste d'intention et de cinématographie pure, et en même temps, ce militant, ce journaliste presque cinéaste, en tous les cas, cette caméra utile, cette caméra qui est au point, on va dire, hein, et il y a, à mon avis, ces deux visages. C'est pas très courant. Hein. Souvent, la dichotomie est forte entre d'un côté et l'autre. On voit bien que Ken Loach, par exemple, est rare. Ne pourrait pas être catalogué comme un grand styliste et comme un grand esthète du cinéma. C'est pas le cas de Vajda. Il tient les deux bouts de la corde, avec des réussites et des échecs. Hein, c'est normal. Mais je pense que son apport, en tout cas sa singularité, sa spécificité, ce pourquoi on continuera, je pense, à regarder ces films longtemps, c'est ben, précisément une sorte d'ambivalence qui n'est pas une ambiguïté, mais qui est juste deux talents conjugués.
Dernière question à laquelle vous pouvez répondre par un seul mot, puisque vous bénéficiez de la subjectivité du chroniqueur, hein, c'est un privilège, hein, c'est intéressant. Vous l'aimez, Vajda, ou pas?
Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que comme il est ambivalent, je l'aime et je l'aime moins.
Bien. En même temps, en
voilà.
Merci, Laurent Delmas.
Merci, Laurent.
À bientôt.
À bientôt.
C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Andrzej Wajda, L'Homme de Cannes. Une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Léo Prangère.